Bonjour à tous et à tous, et bienvenue au balado des attachés de presse. Aujourd'hui à l'émission, on met de l'avant les femmes en politique avec Lisanne, Judith et Megan, toutes des étudiantes en études politiques appliquées. Aujourd'hui, les filles nous présentent des femmes politiques historiques et qu'à travers leurs actions et leurs actions et leur héritage ont changé l'histoire. Tout ça sur les ondes de CFA 88.3. À tout de suite tout le monde. Bonjour à tous et à toutes.
Allô?
Allô?
Bonjour.
Bienvenue, bonjour. Judith et Lisanne, pour la première fois en studio.
Merci de nous accueillir.
Oui, merci à vous.
Présentez-vous en premier. Renaud et Megan ont déjà fait l'exercice, donc je vous laisse la parole. Présentez-vous. Quels sont vos intérêts en politique? Pourquoi vous étudiez en politique? Puis qu'est-ce que vous êtes venu parler avec nous aujourd'hui, concrètement? Là?
Bon, bonjour, moi c'est Lisanne. J'étais à l'école de politique appliquée à l'Université de Sherbrooke, comme Nick a dit juste plus tôt. Moi, je suis allée en politique parce que je voulais, je sais pas, moi c'est quelque chose qui m'intéresse depuis que je suis très jeune. Puis c'était un peu quelque chose que je voulais faire dans la vie depuis toujours. Puis là, maintenant, je suis en coopération internationale ici parce que j'aimerais ça faire. J'aime ça, les trucs plus de terrain. Donc. C'est ça.
T'as foi à la coopération internationale. Tu sais, je sais que c'est
ouais.
Beaucoup de détracteurs, beaucoup de personnes qui défendent ça. Donc oui, toi, t'es de cette école-là.
Ben, je suis une grande optimiste dans la vie. Donc c'est ça. Je suis un peu de cette école-là que oui, sur le local, t'as plus d'impact. Et je m'intéressais plus à la communauté internationale que le chez nous, peut-être. Pas que c'est pas intéressant chez nous, puis il y a pas des trucs à améliorer ici aussi, mais.
Ouais, tu mets pas ça, inquiète-toi pas. Ben, merci, Lisanne. À toi, Judith.
Ah, donc, moi, c'est Judith. Présentement, je fais un certificat en études politiques. Auparavant, j'ai fait un baccalauréat en histoire, fait que c'est deux intérêts conjoints là, pour moi, l'histoire et la politique. Depuis très, très jeune. Là. Je suis quelqu'un de très curieuse là, dans la vie. Là. J'aime ça apprendre. Fait que c'est des horizons que j'aime explorer et que j'aime toujours en apprendre plus dessus. Là.
Puis concrètement, niveau politique, c'est justement l'avènement de l'influence historique par-dessus nos politiques actuelles. On lance la question.
Là, oui, certainement, il y a ça, mais aussi juste plus généralement comme les politiques publiques ou même un peu à l'international. Mais c'est pas mal ça.
Donc, ben merci les filles de nous avoir présenté, puis merci d'être présentes en studio. Là, allez-y les filles, comme vous avez pu le déduire, on voulait faire cet épisode-là, mais c'est vous qui allez diriger en fait les discussions. Moi, je fais juste pitcher les questions, puis Renaud, de manière curieuse comme à l'habitude, va se lancer également. Donc, Megan, peux-tu nous dire un peu comment on va construire le balado d'aujourd'hui?
Oui, en fait, on a un peu deux parties. On va commencer par vous présenter des femmes marquantes dans l'histoire au niveau de la politique. Vous allez voir vraiment beaucoup de variétés, autant des journalistes, une reine qui est des premières ministres. Ça va vraiment être super intéressant. Puis par la suite, on va un peu rentrer dans le sujet, mais c'est comment présentement la situation, les femmes, c'est quoi les défis, les enjeux, parce qu'on va pas le cacher qu'une femme en politique, c'est assez difficile, c'est assez mouvementé. Donc, on va en parler puis un peu savoir, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être améliorer la situation par la suite. Fait que ça va pas mal se dérouler de cette façon-là.
Super. Puis, je sais qu'on en avait parlé hors d'onde. La dernière élection 2022 au Québec, il y a eu un nombre record de femmes élues. Donc, vas-y.
Mais oui, il y avait 58 femmes qui ont été élues. Fait que ça fait 46% de l'Assemblée. C'est 46%. C'est la première fois qu'on atteignait un niveau aussi haut. Donc, c'est un peu, tu sais, ça rentre dans le A. Bien, on a réussi à atteindre un record. Fait que pourquoi pas continuer à en parler? Puis ça va. Présentement, c'est quoi le futur par la suite? Tu me parlais, toi, un peu de QS?
Je sais qu'au dernier congrès national, Québec solidaire, il y a eu beaucoup de. Il y a eu un mouvement, la base partisane plus féministe du parti qui a critiqué l'idée que si à l'avenue, par exemple, d'une victoire à Saint-Henri-Saint-Anne de Guillaume Clich-Rivard, le caucus solidaire ne serait plus paritaire en termes de chiffres, il ne serait plus du tout. Effectivement, ça a fait les manchettes, ça a été mentionné. On aimerait avoir votre position là-dessus. Là.
Ben moi, je pense que si c'est un député que c'est son comté, il connaît les gens à l'intérieur, ça va vraiment sur les qualifications. C'est sûr qu'avoir plus de femmes représentantes à QS, puisque le féminisme et l'égalité des hommes-femmes semble être une de leurs valeurs.
Genre, vraiment mise de l'avant.
Qui met beaucoup de l'avant.
Qui se vante d'être ceux qui poussent cette valeur-là.
C'est leur description de parti, là, d'être féministe.
Avec Françoise David, là, qui était là au début, qui m'a annoncé. Donc, la parité dans ce parti-là, c'est important dans tous les niveaux. À la représentation aussi. Mais c'est sûr que si Guillaume Clich-Rivard, c'est sa circonscription, puis il la connaît bien, c'est cas par cas, j'ai l'impression.
Puis qu'il partage les valeurs féministes également. Là. Si vous pouvez continuer, justement, on allait dans cette direction-là. Quelle est la présence féminine à l'heure actuelle sur le plan politique, si on peut prendre un Québécois ou quoi que ce soit? Là.
Actuellement?
Oui.
Okay.
Allez-y. Globalement, bon.
On peut nommer des gens en ce moment qui se démarquent beaucoup en politique, juste en général. Moi, j'avais pris en note Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. C'est quelque chose quand même. En Europe, si on parle d'endroits macho, là.
Hey boy,
c'est rempli.
Ouais.
Ça le mérite d'être clair.
Ouais. Donc, c'est la présidente de la Commission européenne. C'est probablement une des femmes les plus puissantes en Europe en ce moment. Personne, tout court, les plus puissantes en Europe en ce moment. Puis le fait qu'elle a été élue, tu sais. C'est pas nécessairement. Donc,
elle s'est pas juste ramassée là par hasard, là, vraiment.
Donc, oui. Elle a un solide CV aussi, tu sais. Elle avait été ministre de la Défense en Allemagne avant, ministre depuis plusieurs années au sein des cabinets d'Angela Merkel, justement.
T'sais, après une telle succession d'hommes à la Commission européenne, on est heureuse d'avoir eu cela. Moi, j'aime beaucoup.
Puis elle innove beaucoup. On pourra en reparler. Là. Elle fait beaucoup d'avancées pour une commission qui, en général, est assez...
conservatrice.
Ouais.
Si on le dit de même.
Ouais, mais surtout molle, tu sais.
Ah, c'est tout croche.
C'est de l'éditorial, mais bon. Excusez, j'aime pas l'Union européenne.
ça le mérite d'être clair, là.
Il y en a une autre femme européenne qui se démarque beaucoup là, depuis 2020. Là, c'est la ministre de l'Égalité en Espagne, là, Irene Montero. Là. Depuis qu'elle est rentrée en poste, elle a vraiment fait beaucoup de choses là, pour l'avancement de l'égalité. Comme son plus gros projet à ce jour, c'est la loi sur le consentement. Là, la loi « oui, c'est oui, non, c'est non » qui a beaucoup fait jaser en Espagne. Puis, non, c'est une grande avancée pour... tout ce qui est en matière d'agression sexuelle puis tribunal
qui reste encore un problème tellement présent là. Pour moi je dirais même je quitte l'Europe mais je vais avec AOC Alexandra Ocasio-Cortez qui est la représentante aux États-Unis qui est extraordinaire. C'est pas nécessairement qu'elle va faire, mais c'est juste les speeches qu'elle peut faire puis à quel point elle... je l'adore.
Je sais pas à quel point, peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais pour une femme de parler comme ça dans une assemblée, sans excuses, sans remords, vraiment dire ce qu'elle pense, c'est beaucoup plus difficile qu'on pense, surtout aux États-Unis. Donc, moi, toutes ces femmes-là, je les admire vraiment beaucoup pour ça. Ouais.
À ce sujet-là, moi, ça me fait penser à Catherine Dorion. Qui a été pendant 4 ans à l'Assemblée nationale.
C'est un peu moins actuel, Renaud, n'est plus à l'Assemblée, mais oui, on l'aime beaucoup.
Bon, au contraire, c'est encore d'actualité parce qu'elle nous manque.
Oh, oui, c'est vrai.
Pour vrai, là, vas-y,
ben, c'est après. On voyait pas ça en politique québécoise, quelqu'un qui parle comme ça puis qui a ce style en politique en tant que représentante, de pas se gêner, de
ça
briser des codes.
Ouais. Ouais, comment elle s'exprimait, on se rappellera toujours de la ligne de Coke, là, métaphore du troisième lien, qui a vraiment fait beaucoup jaser quand elle avait sorti ça.
Peux-tu le mettre en contexte? Peux-tu le mettre en contexte, ce propos-là? J'ai un blanc. Là,
si je me souviens bien, c'est quand elle avait été... Si c'était à la campagne électorale, là, sa première en 2018, il parlait déjà du troisième lien, puis elle était allée à Tout le monde en parle, puis elle avait parlé que... Elle avait fait ça une métaphore, que le troisième lien, c'est comme une ligne de coke. Là. C'est comme, mais je sais pas pourquoi, alors, c'était quoi ces mots textuellement qu'elle a dit pour expliquer ça, mais les gens ont juste vraiment retenu ça.
Ah, salut Mathieu, pour ça.
Ah, gros, ouais, excusez-moi, j'apparais comme ça, puis je disparais après. Non, je m'allais dire, elle discutait en gros du pourquoi est-ce que augmenter le nombre d'autoroutes puis de grandes routes, ça l'augmentait au final la congestion parce que ça devenait comme une addiction. Ah, ça venait comme une ligne, c'était une ligne de code. C'était, on ajoutait une ligne, bon, ben, ça veut dire qu'il va y avoir plus de chars, fait que finalement, il va falloir qu'on ajoute des lignes d'autoroute, tout ça, puis, et voilà, etc., etc. C'était ça, là.
C'est fantastique, mais si je peux revenir sur Catherine Dorion, c'est, elle sortait du cadre, tu sais, un fort carré vraiment conservateur qui, tout le monde s'attend à ça. Alors, pourquoi c'est toujours ça? Pourquoi c'est supposé être ça? Pourquoi c'est ça? Puis, t'as Catherine Dorion qui est autant compétente dans tous ces dossiers, qui débattait aussi souvent sur les enjeux de culture, littérature, qu'on parlait. Personne parlait de ça en Assemblée nationale, tu sais. Puis c'est même pas éditorial pro-Québec solidaire, c'est un éditorial pro-Catherine Dorion. Parce qu'elle faisait ça, l'avoir quitté, bon, c'est. Bref, c'est une perte pour tout le monde. Ben, c'est mon éditorial aussi. Là.
Elle a comme établi une sorte de nouveau. Ben, juste un nouveau standard pour les femmes au Québec qui veulent aller en politique. Là. Mettons, moi, j'ai moins. Ça ferait moins peur à n'importe qui ici. Je pense à Judith ou à Meg. Si jamais ils veulent se présenter, genre, arriver en assemblée, être un peu plus elle-même, tu sais, que ce que.
Être comme, en jeans, là, ouais. Par exemple.
Se sentir plus confortable en général.
Oui, parce que la politique, c'est encore un monde de dominance masculine. C'est vraiment intense. Puis un peu, tu t'en as parlé, mais cette corde conservateur-là, puis les femmes, quand ils se lancent là-dedans, ils sont tellement observées encore plus que les hommes, toutes leurs faits, gestes.
C'est tellement important.
Exactement. C'est super important, c'est super analysé. Puis une erreur qu'une femme fait va être beaucoup plus critiquée que l'erreur d'un homme. On le voit vraiment plus souvent aussi. Fait que c'est un peu, genre, le permis justement de sortir, de faire comme, ben, gars, check, comme, on peut sortir de ce cadre-là super strict, puis faire. Un petit peu plus libre. Moi, je trouve ça vraiment le fun. Ça. Ouais.
Bien, j'ai hâte qu'on discute. J'ai le plan devant moi.
Oui.
On peut aller dans les personnalités politiques historiques que vous avez marquées, vous intéressent le plus. Je sais que vous avez mis le nom de Margaret Thatcher de sur quoi. Ça me vient en tête quand vous dites ça, là, cette image qu'une femme doit projeter en politique pour être respectée. On en parlera plus tard, là, mais bref, ça me fait tout de suite penser à cette figure importante de la politique au niveau historique. Là. Donc, lancez-vous tour à tour. Nommez-nous une personnalité politique qui a marqué l'histoire.
Ouais, oui, on va commencer par dans l'ordre chronologique, là, la plus ancienne. Et je pense que si je vous parle de la reine Nani de Jamaïque, il n'y a pas grand monde qui connaissait qui.
Effectivement, vous m'en avez pensé une bonne.
Parfait. Dans le fond, c'est qui cette femme-là? La reine Nani, c'est une femme qui aurait vécu entre 1686 puis 1733. Je dis aurait vécu parce qu'on n'est pas certain de la date de son décès. Et pour me mettre en contexte, à cette époque-là, la Jamaïque, c'est une colonie anglaise, donc qui importait beaucoup d'esclaves. Donc, Nani est une esclave importée en Jamaïque. Et arrivée en Jamaïque, dans le fond, elle s'est enfuie pour aller faire partie de la communauté des Marrons. Donc, les Marrons, c'est une communauté de Jamaïque. Dans le fond, c'est tous des descendants d'anciens esclaves africains qui ont lutté contre l'esclavage, qui ont réussi à s'enfuir pour aller vivre dans les montagnes puis former des communautés Marrons puis vivre librement en affrontant l'esclavage. Donc, elle a réussi à s'enfuir puis d'aller fonder sa propre communauté où elle a été la reine. De la chef. Elle vivait dans les montagnes, puis elle a vraiment bâti la tente qui s'appelle Nani Town. Je pense que c'est encore une ville actuelle en Jamaïque aujourd'hui. Puis pourquoi ça a une figure importante? Mais c'est pas juste une chef, ça a été vraiment une chef militaire, puis c'était une fine stratège. Vraiment, écoute, elle a combattu les Anglais de 1628 à 1734, et jamais elle n'a encaissé une défaite. Les Anglais n'ont jamais été capables de pénétrer dans Nani Town. Et tellement que les Anglais en avaient ras-le-bol d'elle, ils n'étaient pas capables de les battre. À la fin, ils ont donné des terres aux Marrons, puis ils leur ont donné l'autonomie gouvernementale de vivre librement. Là, mais aussi, pourquoi elle est importante, c'est qu'elle a réussi à libérer près de 1000 esclaves. Elle a sauvé comme 1000 esclaves. Des descendants africains qui, on s'entend, le peuple en Jamaïque aujourd'hui, en grande partie de la population, c'est l'héritage de l'esclavage. Fait que c'est vraiment une héroïne nationale et puis une figure importante contre la lutte contre l'esclavagisme. Souvent, quand on parle de la lutte contre l'esclavagisme, il y a des figures qui reviennent, tu sais, les mêmes figures, là, Rosa Parks, Harriet Tubman. Mais elle, c'en est une, puis malheureusement, elle passe
sous le radar.
Elle passe beaucoup sous le radar, puis surtout pour avoir sauvé 1000 personnes.
d'avoir affronté les Anglais sans aucune défaite. Là. Ça, c'est impressionnant aussi. Là.
C'est vrai que Québécois, on est admiratifs de ça.
Ouais, vraiment. Si je peux ajouter, elle passe sous le radar. Puis, de ce que j'avais compris, c'est qu'il y a très peu de documents écrits.
Oui,
sur, à son honneur puis sur son histoire, c'est encore plus doublement triste, c'est qu'on puisse pas avoir de quoi de plus concret puis qu'on n'en parle pas plus souvent.
C'est parce que historiquement, les tribus en Afrique, il y avait pas beaucoup de sources écrites, ils y allaient plus par les sources orales. Puis comme il y avait l'héritage africain, ben ils ont continué avec les documents de sources orales, d'où le questionnement sur la date de son décès. On n'est pas trop certain. On hésite entre deux dates. Puis aussi, c'est une femme importante parce qu'elle a vraiment été à la tête d'une révolution. Puis souvent, dans les grandes révolutions du monde, on sait que les femmes ont participé, ils ont été des agentes actives, mais on les oublie puis on les projette pas à l'avant comme elle se doit. Quand on présente après en histoire, on les enlève, mais elle est vraiment comme restée là. Fait que c'est vraiment une figure emblématique de la Jamaïque. Là. C'est la figure du billet de 500 $. Là. C'est une des femmes les plus connues dans les Caraïbes, en tout cas. Là.
Est-ce que tu penses que le fait que, en fait, son histoire est peu connue, c'est du fait parce que elle fait pas partie directement de l'Occident, vu qu'elle provient de l'Amérique centrale?
Oui, entre autres, là, justement. T'sais, surtout quand on parle, admettons, de la lutte esclavagiste, t'sais, c'est beaucoup centré sur les États-Unis. Mais on s'entend que l'esclavage, il n'y en avait pas juste aux États-Unis, il y en avait partout, en Amérique latine, en Amérique centrale, en Afrique. Il n'y a pas juste les États-Unis qui ont combattu l'esclavage. Là.
Ben même au Canada.
Même au Canada.
En Nouvelle-France, il y en avait de l'esclavage.
Oui, oui. Marie-Joseph Angélique, là, l'esclave la plus...
L'incendie de Montréal.
Ouais, exactement. L'esclave la plus populaire, là, si je peux dire ça comme ça. Ben la plus connue, si je peux dire ça comme ça.
Qu'elle avait été accusée faussement, dans le fond,
d'avoir causé un incendie à Montréal.
Qui a détruit une partie de Montréal en 1760, à peu près.
Oui, dans les mêmes années. Ouais. Là, oui.
Mm-hmm. Ouais. C'est pas mal ça, toi. Tu veux-tu rajouter quelque chose au... C'est un peu dans le même.
Mais moi, je la connaissais pas du tout non plus, la reine Nani de Jamaïque, avant que tu m'en parles. Donc, moi, je suis abasourdie par son histoire, puis je la trouve absolument incroyable. Puis, si on continue avec la lutte esclavagiste dans l'Amérique, mais moi, je voulais présenter Harriet Tubman. Elle est un peu plus connue, il y a un film quand même sur elle. Elle est connue comme le Moïse de son peuple. Elle est née esclave, mais elle s'est enfuie sans l'aide du Underground Railroad avec lequel elle va aider ensuite à que d'autres esclaves s'enfuient. Mais ce qu'il faut savoir, est-ce que le Underground Railroad, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, c'est une suite de chemins ainsi que de raccourcis, de passages secrets qui partaient du sud pour aller jusqu'au nord où les États étaient libres, où il n'y avait pas d'esclavage, où c'était interdit. C'était avant la guerre de sécession. Puis dans le fond, le Underground Railroad, c'est pas vraiment un railroad, là, c'est tu marches du sud jusqu'au nord. Harriet Tubman, elle le fait une douzaine de fois, puis il y a jamais un seul esclave qui s'est fait arrêter, elle s'est jamais fait prendre. Elle avait tellement de succès qu'à un moment donné, il y avait un 40 000 $ que la personne qui l'a capturée gagne. 40 000 $ là, dans les années 1840, peut-être avant ça, là, c'est énorme. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Puis après ça, lors de la guerre civile, quand il est venu la sécession, elle a participé dans l'effort avec la guerre de l'Union. Elle s'est portée volontaire, elle a été espionne, soldat, infirmière, elle a joué tous les rôles possibles qu'elle pouvait dans cette guerre. Puis honnêtement, c'est aussi la première femme noire à avoir servi dans l'armée américaine. Fait peu connu. Donc,
wow.
Ouais. Elle a lutté aussi par la suite pour le droit de vote des femmes, il me semble. J'ai lu un quelque part un petit peu, là.
Ouais.
Tranquillement, elle avait commencé cette lutte-là aussi.
Ouais.
Donc, non, vraiment très impressionnante, la madame.
Ouais, honnêtement, un super héros, moi, à mon avis. Je sais pas. Tu dois avoir des bons mollets pour marcher tout ce chemin-là.
12 fois, là.
Ah ouais, une douzaine de fois.
Ça prend pas 3 jours faire séance,
ça. Non.
À l'époque.
Puis j'étais pour... c'est quoi le film? Tu le connais?
C'est Harriet. C'est avec Cynthia DeRivo. Mais c'est un film qui a été nominé aux Oscars. Je l'ai vu, c'est fantastique. La performance de l'actrice principale... Ben, l'actrice qui joue Harriet, elle a été nominée aux Oscars. C'est honnêtement, je pense que c'est d'après ce que j'ai lu sur elle, le comparant au film, c'est une bonne reproduction de ce qui s'est passé dans sa vie. Et je le conseille vraiment. Puis moi, je suis ressortie d'admiration pour ce film-là.
Je vais ajouter une petite anecdote que j'ai su tout à l'heure. Harriet Tubman était supposée apparaître sur les billets de 20 $ des États-Unis.
Oui.
Un certain Donald G. Trump a cancellé l'avènement de tout ça. Joe Biden a reparti le débat. Ça va être fait d'ici aujourd'hui jusqu'en 2034. Ça va prendre du temps pour faire des billets américains.
Est-ce qu'on sait si elle remplacerait qui sur le billet de 20$?
Ah, attends, on va voir.
20$, Renaud.
Benjamin Franklin?
George. Ça, c'est le 1$.
Ben, je pense pas que les Américains vont enlever George Washington. Ouais. Ben,
non. Ah non, ça serait bien été.
On sait que c'est. Ouais. On vous revient là-dessus.
Oui.
On revient là-dessus. Mais bref, c'est une anecdote. Andrew Jackson. Merci, Mathieu.
Mais,
C'est un président qu'on peut oublier dans l'histoire des
États-Unis. Ouais, exactement.
Non, c'est un boy de la sécession, quoi.
C'est le président. non, Andrew Jackson, en fait, il est controversé parce qu'il a beaucoup participé au massacre des Autochtones. Ouais. Quand il était général militaire avant.
Ça serait un gros changement, quand même.
Mais c'était quand même un président important, là, la Jacksonian Democracy, mais on ne rentrera pas là-dedans.
Un président qu'on peut mettre de côté. OK, ça c'est dit. Le Meg, à toi de ta personnalité politique, c'est un nom, encore une fois, que je ne connaissais pas du tout.
Non, c'est pas moi, c'est à Judith.
Pas toi,
encore.
Je m'excuse.
C'est correct. Judith, vas-y. On te...
Mais avec ton passé d'historienne, je peux le dire ainsi, ouais. C'est intéressant, c'est cool.
Ah ben tant mieux, c'était ça le but aussi là aujourd'hui, de faire découvrir des personnages méconnus. Fait que pour la suite, c'est Huda Charaoui. C'est une femme qui a vécu de 1879 à 1947 et c'est l'une des pionnières du mouvement féministe égyptien et arabe. Puis elle a aussi été très importante et proactive pour le mouvement nationaliste égyptien. Alors cette femme-là, dès son plus jeune âge, elle a été très sensible aux questions d'égalité des sexes. Surtout par rapport au mariage précoce, mariage forcé, puis la polygamie. Parce que, mais premièrement, sa mère, c'est la co-épouse de son père. Donc, son père avait deux épouses. Donc, elle a grandi dans un harem. Et par la suite, à 12 ans, elle a été forcée dans un mariage. Mais, tu sais, dès cet âge-là, pas qu'elle connaissait ses droits, mais elle avait de la drive parce qu'elle tenait vraiment le bout de son menton parce qu'elle était contre la polygamie. Fait, avec la personne avec qui on voulait la marier, c'était son cousin qui avait déjà une épouse. Fait, elle avait vraiment tenu son bout qu'elle ne voulait pas être une co-épouse. Elle dit, moi, si je me marie, c'est vraiment pour être l'épouse officielle, point barre. Fait, elle a fait divorcer son futur mari pour... elle s'est mariée avec lui. Mais elle a réussi à le divorcer plus tard. Fait que pendant cette période de divorce, elle a vraiment gagné comme de l'autonomie. Puis c'était une femme très instruite pour l'époque. Là, elle a été éduquée en langue française. Elle a appris le Coran, qui était c'est pas toutes les femmes de l'époque qui étudiaient le Coran. Là. En tout cas, plein d'autres choses. Et bon, elle s'est remariée une deuxième fois avec son mari. Puis là, elle a eu la chance de voyager dans le monde. Fait qu'elle a vraiment eu une ouverture sur le monde. Puis quand elle est revenue de ces voyages-là, elle a vraiment été très proactive pour la communauté en Égypte. Donc, par exemple, elle a créé un dispensaire qui est devenu un hôpital très important en Égypte. Et après la Première Guerre mondiale, son mari a participé à la création du Parti nationaliste. Et là, je m'excuse vraiment pour la prononciation. Là, c'est le WAFD, le WAFD. C'est un parti qui militait pour l'indépendance de l'Égypte à l'époque, qui était sous contrôle britannique. Donc, elle s'est jointe à la cause-là. Elle a participé puis même créé des manifestations nationalistes. Puis après, vers 1923, elle a fondé l'Union féministe égyptienne, qui défend le droit des femmes et en particulier l'accès à l'éducation, à l'université et à la fonction publique. Dans les années 20, là, je sais pas si c'était en avant sur le mouvement féministe occidental. Il faudrait que vérifier ça. Puis, c'est ça, la même année, en 1923, elle a été à un congrès à Rome. Puis, quand elle est revenue,
elle a décidé de pas remettre son voile. Fait que elle a enlevé son voile, puis ça a été un acte politique qui a à l'époque valu la stupéfaction puis une renommée internationale. Puis je sais pas si ça vous sonne une cloche là, pour faire un fait parallèle avec l'actualité récente là, les femmes qui enlèvent leur voile, s'il y en a qui savent la réponse. Ouais, en Iran. C'est ben je trouve ça vraiment comme fou que 100 ans avant, il y a une femme qui a fait ça. Ça l'a parti en flèche un mouvement féministe en Égypte qui est après devenu arabe, puis que presque 100 ans plus tard en Iran, on voit la même chose qui se produit. Je trouve ça complètement, complètement fou. C'est ça. Puis après, elle a consacré le reste de sa vie à des combats féministes et nationalistes. Comme, juste pour faire un petit résumé de son CV, là, elle a participé à des conférences internationales, elle a été parraine d'associations, elle a lancé une revue en langue arabe ouvertement féministe à l'époque, là, en 1925. Là. Quand même très fort. Elle a écrit des revendications pour les femmes égyptiennes puis le mouvement féministe internationaux même. C'est ça, après son mouvement féministe égyptien s'est vraiment élargi pour la lutte féministe arabe de manière générale et puis pour l'unité du monde arabe là, aussi là. Et en 1944, c'est elle qui a organisé le premier congrès féministe arabe au Caire en Égypte là. Vraiment une femme au CV très impressionnant là. Une figure aussi symbolique là, très impressionnante là.
Mais c'est bon, t'sais, on s'en rend pas compte, mais dans le Moyen-Orient, dans le monde arabe, il y en a tellement des femmes politiques qui ont été si importantes. Là. Malala, il y a... je veux pas... Thierry Mavo, c'est quoi?
Benazir Bhutto,
t'sais.
Ouais, il y en a énormément, il y en a beaucoup.
Mais Thierry Mavo, justement, on peut t'en parler maintenant?
Maintenant,
je voulais juste avant une chose, ouais. On parle de mouvement féministe en Égypte. C'est dommage parce que moi, les cours d'histoire que j'ai eu en Égypte, on parle toujours d'Abdel Nasser comme mouvement nationaliste égyptien, la promotion de l'Égypte, l'émancipation égyptienne à, tu sais, t'as l'Empire Égypte, mettons, il y a de nombreux millénaires, ou merci de chercher le terme. Entre les deux, t'as rien sauf Nasser, alors que t'as des figures, non seulement féministes, mais sociales, point, là. Féministes en premier, social ensuite, puis qu'on n'en discute pas dans les cours d'histoire, c'est un peu dommage pour tout le monde, tu sais, de voir ces accomplissements-là, ces mouvements sociaux-là, qu'on puisse pas divulguer ce genre d'informations-là. Ça, c'est mon take.
Comme on dit, les grandes oubliées de l'histoire.
Exactement.
Malheureusement.
Ouais.
Mais excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, mais c'est correct. Ouais, juste qu'on était là-dedans aussi, c'est Judith, là, c'est Ramavo. On a parlé un peu.
Mais c'est ça, dans la même lignée. Là. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Sira Mavo Bandaranaike?
Non.
Sri Lanka?
Première femme contemporaine, qui est chef d'un gouvernement d'un pays. Oui, je l'ai su tout à l'heure. Merci beaucoup de nous apprendre aujourd'hui.
Ben exactement. Dans le fond, Sira Mavo, c'est la première femme à être élue à la tête d'un parti politique et à être élue démocratiquement à l'époque contemporaine. On parle de 1960, ce qui est vraiment un exploit extraordinaire. C'est juste pour mettre en parallèle, là, à cette époque-là, les femmes avec le droit de vote pouvaient avoir un emploi, gagner un salaire, mais leur autonomie juridique était pas à pleine capacité. C'est juste un exemple, là, à la même époque, Marie-Claire que Kirkland Cassegrain, oui, c'est ça. Première femme élue à l'Assemblée nationale, elle avait même pas encore été députée, là. Elle était ministre. Elle avait même pas encore la capacité juridique pour signer des documents de députée à l'Assemblée nationale. Ça devait être son mari qui vient de signer pour elle. Tu sais, on est dans cette époque-là. Cette femme-là a réussi à être, première ministre de son pays. Elle a fait trois mandats à trois reprises. Puis qu'est-ce qui est encore vraiment, cocasse, là, intéressant, c'est qu'à son dernier mandat de 94 à 2000, là, il y a eu un contexte politique. Là, le Sri Lanka, ils ont changé leur constitution. Là, c'est devenu plus une république parlementaire. Là, avant, c'était une monarchie constitutionnelle. C'est sa fille qui était la présidente du pays. Puis elle a été première ministre. Fait que sa bosse à elle, c'était sa fille qui dirigeait le pays.
Mon Dieu.
Mettons, ça roulait dans la famille. La politique.
C'est-tu les Trudeaux du Sri Lanka?
On peut dire ça comme ça.
Puis aussi, ce que je trouve fascinant aussi chez cette femme-là, c'est qu'elle est au pouvoir dans trois décennies différentes, à trois moments de l'histoire du Sri Lanka totalement différents. Donc, c'est vraiment une femme qui a su enraciner cette culture-là, puis ça se perpétue avec sa fille là, aujourd'hui.
Je vois, je suis en train de lire un peu sur elle quelques trucs. Là. Elle a résisté à une tentative de coup d'État, à une insurrection armée, puis à une guerre civile dans le pays.
C'est impressionnant, là.
Ouais.
Ouais. Mais c'est ça, tu sais, elle a gouverné de 1960 à 65, 70-77, puis 94 à 2000. Très. Ouais, vraiment trois époques différentes. Puis, dans le fond, c'est elle qui a fait adopter le Parlement, la proclamation de la République. Là. Elle a changé le nom du pays. Là. Avant, c'était le Ceylan. Puis, elle a changé pour que ça soit le Sri Lanka. Là. Donc, ouais. elle est très connue pour. C'est ça, ça.
Une figure emblématique de son pays aussi.
Ouais, le nationaliste là, de son pays.
De manière encore plus simple, elle a totalement changé le Sri Lanka. Là,
exactement.
Avec ses actions. Ouais. Enfin, chapeau à elle, pour de vrai. Maintenant, avant d'aller en pause, il nous reste un petit peu de temps. Je pense qu'on peut introduire la figure de Margaret Thatcher.
Ben oui, exactement.
Bon, c'est probablement.
C'est une icône. On peut pas passer au.
C'est ça. C'est impossible.
On quitte, on s'en va en Occident là, pour les prochaines figures. Donc, Margaret Thatcher, qui a été la première ministre du Royaume-Uni en 1979 jusqu'en 90. Je pense que c'est elle qui a eu le plus.
Oui, de l'ère moderne.
Oui, exactement. Le plus long mandat. Donc, une femme assez. Un personnage, là, vraiment, on peut se le dire, là, vraiment, là, était appelée surnommée la Dame de Fer. Ça laisse un peu voir comment elle était. Donc, elle est rentrée à Oxford rapidement, là. Elle est rentrée à Oxford en 50. Elle étudiait à Oxford, elle est rentrée au Parlement en 59. À 70 à 74, c'était la ministre de l'Éducation. Puis par la suite, finalement, en 79, elle rentre au pouvoir. Et elle rentre au pouvoir pendant que le Royaume-Uni était dans une situation quand même assez complexe. Là. C'était pas le calme, là, disons.
C'était particulier. Là.
Oui.
Est-ce qu'on peut rappeler un peu le contexte? Là? C'est quand même un contexte.
Crise économique, inflation, monde.
L'Irlande du Nord, à cette époque-là aussi, commençait bien gros à
faire lutter, du bruit. Là,
faire du bruit, exactement. Exactement, et voilà. Fait que, ouais, non, c'était vraiment, c'était un peu le chaos.
La guerre des Malouines.
Mm-hmm.
On salue Laurent, d'ailleurs.
Il y avait tout le temps des grèves, les syndicats avaient vraiment la main sur le pays.
Puis elle a réussi à pas flancher, là, à rien leur donner, elle a gardé son bout.
Elle les a massacrés.
Exactement, là, ouais, à coup de masse, là, elle les a battus, là, c'était quelque chose. Elle a aussi apporté, justement, avec la crise économique, elle a vraiment comme faire une grosse campagne de privatisation. En fait, le secteur public a été coupé quasiment à moitié. Puis ça a fonctionné. Là. Après ça, ça s'est remis à bien aller au Royaume-Uni et compagnie. Elle a survécu à un attentat qui a été fait contre elle. Comme c'était quelque chose, là, cette
femme. Elle était toute seule de femme dans son propre cabinet.
Oui.
Puis,
mais c'est de son propre vouloir, ça, oui. Ce que je me rappelle. Oui. C'est elle qui avait décidé qu'il ne voulait pas de femme, par contre.
Oui, ouais, elle avait même dit, il me semble qu'il est un peu avant qu'elle soit première ministre, mais qu'il n'y avait aucune femme qui deviendrait première ministre dans cette époque-là, que ça serait impossible. Là, t'sais. Fait que c'est un personnage, vraiment, cette madame-là.
C'est quelqu'un d'extrêmement dur et conservateur, justement. En fait, justement, beaucoup d'hommes dans son cabinet étaient comme, on ne veut pas être autant radical, on ne peut pas autant faire mal aux ouvriers et tout ça. Il était comme, non, on y va. Donc, pas nécessairement aimée comme personne, mais clairement, à 12 ans de règne, ça dit quand même long sur
elle. Oui, vraiment.
Si je veux juste ajouter, c'est que au-delà de la figure en elle-même de Margaret Thatcher, c'est que on la connaît pour la doctrine Thatcher, le néolibéraliste avec Reagan. C'est son héritage politique est au-delà de elle, sa personne en elle-même, mais ce qu'elle a donné comme politique, c'est ça qui est aussi immense comme héritage.
Puis en fait, c'est que sa doctrine politique, justement, de privatisation, tout ça, lutte contre les syndicats, contre l'inflation, c'est vraiment devenu la doctrine dominante en Occident. Puis ça a été la première à appliquer cette méthode-là de néolibéralisme, justement.
Aviez-vous un petit mot de la fin pour Margaret?
Ouais. Ben, je veux dire, Margaret Thatcher aussi, à travers le mouvement féministe en général, c'est une femme admirable qui est restée longtemps au pouvoir, mais à travers le mouvement féministe, figure très controversée. Mm-hmm. Elle-même était un peu, pour dire les bons et les mauvais côtés, était un peu misogyne d'elle-même. Mm-hmm. Elle avait l'impression que les femmes, il n'y avait pas ce qu'elles pouvaient pour être au pouvoir, puis elle ne voulait pas en amener avec elle. Puis T'sais. Mais c'est, les gens sont imparfaits.
Oui, exactement. Ouais.
C'est particulier, effectivement, comme contraste. Là. Je peux pas dire.
Mais elle était aussi surhumaine. Là. Elle restait la femme à la maison, tu sais, elle faisait toutes les tâches de la femme au foyer tout en étant première ministre, puis elle faisait à manger à tout son cabinet aussi. Elle leur faisait des repas comme une
workaholic pur là.
T'sais. Ouais, exactement, tu sais. Donc c'est ça.
Aviez-vous d'autres figures?
Oui, on en a encore là. On va renaître ça un peu là, vraiment rapidement. Donc la prochaine qu'on va parler, c'est au Québec, Pauline Marois. Je pense que tout le monde la connaît, la première femme première ministre québécoise qu'il y a eu. En fait, là aussi, c'est le plus grand nombre de fonctions ministérielles de l'histoire du Québec. C'est Pauline Marois qui les détient. Elle a notamment eu l'éducation, la santé puis les finances, qui est quand même des assez gros postes.
C'est gros, là.
Oui, c'est ça. C'est pas juste
des gros ministères, mais que toujours été des hommes qui l'ont
oui,
qui ont été
exactement.
Là.
Oui, exactement.
Donc,
ouais.
Des immenses ministères où est-ce que tu as de la pression? Tu es une des premières, tu es une pionnière. Fait comme on le disait.
En plus, elle n'est pas restée là à se tourner les pouces. Là.
Non, elle a fait
des grosses réformes.
Ben oui, l'éducation, en fait, justement, en 96, ça a été les commissions scolaires confessionnelles, là, la réforme, ça a super bien fonctionné. Fait que tu sais, juste ça, c'est quand même. C'est quelque chose d'assez gros.
Le système des garderies.
Ben oui, les garderies, exactement.
C'est ça que je voulais dire. Monsieur député Bérubé qui dit s'il y a une loi Françoise David, il faudrait une loi pour une loi pour les CPE. Il l'a mentionné aujourd'hui parce que ça a été une pionnière dans les CPE. Justement,
ben
les
oui.
CPE publics comme on le connaît au Québec. Merci, Pauline. C'est
100%. Non, fait que oui, quelque chose d'assez important. Qui a survécu une tentative d'assassinat. Là, on en parlait un petit peu hors d'onde. Puis
une attaque féministe.
Exactement, un peu d'une certaine
quand
façon.
Quand elle a été élue première ministre en 2012, il y a eu justement une tentative d'assassinat lors de l'événement pour fêter cette victoire-là. Puis elle a vraiment évité de revenir sur cet événement-là par la suite parce qu'elle voulait pas attiser des tensions ou vouloir donner l'image qu'elle récupérait de façon politique l'événement parce que c'était un assassinat, c'était une tentative d'assassinat pour des raisons politiques, tu sais.
Non. Fait que c'est ça, super impressionnant.
Ça a été justement l'actualité. Je sais pas si vous avez connu la saga Sandro Grande. Tout récemment, le CF Montréal qui a nommé cette personne-là comme entraîneur-chef du club école du CF Montréal.
Qui était mon directeur technique de soccer, d'ailleurs. Petite parenthèse, ça, tout essayant, là, mais ouais.
OK, j'étais pas prêt à ça.
Wow.
Mais c'est ça. À cette époque-là, Sandro Grande a dit des tweets de mauvais, très, 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 très mauvais goût, disant « t'aurais pas dû manquer ta shot », tu sais. Et là, on en parle, oui, c'est un attentat politique, mais c'est surtout un attentat misogyne féministe qui sort qui vient avec. C'est assez, assez horrible. Puis effectivement, Pauline n'a jamais voulu commenter cet incident-là. Donc,
parlons de féminicide.
Parlons de féminicide, ben moi, je peux introduire le sujet de Francine Pelletier.
Exactement.
Peut-être une femme un peu méconnue et connue par dépendant à qui tu parles. Francine Pelletier, dans le fond, elle est journaliste de formation. On va commencer dans les années 80, disons, avant le massacre, le fameux féminicide de la Polytechnique. Dans les années 80, de 80 à 87, elle avait un magazine d'actualité qui s'appelait La vie en rose. On se rappelle, le mouvement féministe, dans les années 80, était beaucoup plus pour la libération sexuelle, que la femme n'est pas juste un objet, que c'est une personne, etc.
Libération des corps.
Donc, c'était un magazine d'actualité radical, féministe, qui transmettait des idées politiques à travers un peu la sexualisation de la femme et une sexualisation positive parce que c'était un magazine administré complètement par des femmes. C'est elles qui décidaient où ils mettaient leur corps, comment ils le montraient. Il y avait des éditrices qui étaient des modèles, des affaires comme ça. Donc, pendant longtemps, elle a été une des éditrices en chef de ce magazine-là. Après ça, elle est surtout maintenant connue pour être une des 19 femmes qui étaient sur la liste de Marc Lépine, celui qui a fait le massacre, le féminicide de la Polytechnique. C'est une liste de 19 féministes.
Qui n'avaient pas pu tuer cette journée-là, en fait, qui voulaient
tuer,
mort,
mais qui n'auraient pas pu. Ouais. À la place, ils s'en sont pris à des pauvres étudiantes de génie. Ouais, en tout cas, on va revenir là-dessus tantôt. Donc, c'est ça. Puis elle, la lettre, tout le monde voulait mettre ça en dessous du paillasson, quoi. Personne voulait en parler vraiment du fait que c'était un féminicide, c'était un crime contre les femmes, un crime misogyne. Donc, Marc Lépine avait laissé une lettre de suicide, mais personne voulait la sortir. Donc, elle travaillait pour la presse à cette époque-là. Elle poussait beaucoup son éditeur pour publier. Puis finalement, elle a réussi à faire publier cette lettre-là. Puis des fois, c'est un peu un sujet controversé. Est-ce qu'on publie les manifestos de ces gens-là ou est-ce qu'on publie leur dernier mot? Mais dans ce cas-là, c'est ce qui a prouvé qu'en effet, c'était un meurtre contre les femmes, un crime contre les femmes. Et donc, c'est ça. Elle a également fait une entrevue avec un homme qui comprenait Marc Lépine à l'époque, dans les années 90, qui a été fortement...
Dans le sens que c'était un proche de lui ou c'était...
Non, c'est quelqu'un qu'elle avait trouvé sur Internet, qu'elle avait trouvé par la bande, qui était comme « Moi, je comprends d'où il vient Marc Lépine ». Puis elle est allée dans un café en public, puis elle l'a interviewé. Puis elle a fait un article avec ça.
Genre d'entrevue, mettons, on se fait voler nos jobs ou je sais pas trop.
Ouais,
genre, mais pas dans ça, mais je
c'est
vois.
Quelque chose en genre, c'est thématique. Beaucoup comme les femmes maintenant, ils veulent c'est plus ça. Rien faire. C'est ça, ils veulent plus. Okay. Ils veulent plus rester à la maison. S'ils veulent rester à la maison, c'est un non. Et des, genre des affaires comme ça, tu sais. Puis, ouais, fait que c'est ça. Moi, Francine Pelletier, je l'admire beaucoup. Je vous conseille de lire son essai qu'elle a fait. Je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais elle avait écrit un essai avec dans une. Il y avait une collection d'essais qui avait été publiée pas très long, il y a peut-être cinq ans à peu près. Et ouais, c'est ça.
Moi, ce que je me pose comme question, c'est pourquoi il voulait pas publier la lettre pour question d'éthique.
Non, c'est pas ça. C'est parce qu'à l'époque, on était rendu à un point dans le mouvement féministe que ça chutait. Tout le monde était comme plus besoin des féministes, plus besoin. Ils ont déjà l'égalité des femmes, l'égalité hommes-femmes, l'égalité des sexes, c'est déjà là. Tu sais, tous les droits sont là. Donc, le mouvement féministe est en chute. C'est d'ailleurs pour ça que le magazine La Vie en Rose a dû fermer en 1987 parce que personne ne voulait le lire. Donc, c'est ça, c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas en rajouter. Ils voulaient pas.
On voulait nier, en fait. Ouais, c'est vraiment dans le déni, puis ça a pris du temps vraiment avant qu'on considère.
Climat toxique.
Mais technique.
Mais vraiment qu'on mette les mots féminicides dans le débat public.
Ouais. Contrairement à ce qu'on peut penser, le massacre de la Polytechnique, c'est pas un mouvement qui a fait que les femmes voulaient plus aller dans les rues puis revendiquer leurs droits. En fait, ça les a aplatis, ça a aplati leur voix, ça a fait qu'ils voulaient plus parler, qu'ils se sont encore plus, genre, restés chez eux, mettons.
Renfermés sur elles-mêmes.
Ils sont plus restés dans la sphère privée après que pour tourner sur la sphère publique.
Puis ça... Savez-vous pourquoi?
Ben, je pose moi, j'ai écouté quelque chose justement qui en parlait puis qui disait, à la suite de la Polytechnique, le débat qui est sorti, c'était les armes. Tu sais, on parlait tout le temps le contrôle des armes, qu'est-ce qu'il faut faire.
Le contrôle
de
l'information n'était pas orienté vers le débat.
Exactement, c'est ça. Fait qu'on l'a tellement fait passer sous silence que ça a toujours, on a mis l'emphase sur les armes à feu, mais pas le fait que ben, la misogynie, c'est ça qui a causé, pas l'arme en tant que telle.
On s'entend que c'était vraiment ça parce que Marc Lépine, quand il est débarqué, il a vraiment juste pris les femmes à part. Là,
oui, exactement. Il a juste dit aller d'un bord.
Ça veut tout dire.
Ouais. Puis honnêtement, pour les femmes qui étaient dans les sciences à cette époque-là, je prends par exemple, ma mère était ingénieure à l'Université de Sherbrooke pendant cet événement-là, puis elle a failli aller en génie chimique à Polytechnique. Fait que, tu sais, moi, je serais pas en vie en ce moment. C'est une question de quelques affaires, là. Puis, je sais pas, moi, c'est un événement qui a beaucoup marqué ma famille, qui a marqué notre culture, qui a marqué, comme nous, on le célèbre à chaque année, le massacre de la Polytechnique, puis on s'en rappelle. Puis moi, je pense honnêtement que c'est quelque chose que toutes les femmes devraient se rappeler au Québec. Ben, peut-être pas, si ça vous tente, ça vous tente pas. C'est un petit peu lourd comme événement quand même, mais je veux dire.
Il faut s'en rappeler. Non, il faut s'en rappeler.
Non, c'est important à souligner.
Ouais.
Je peux rajouter au-delà des femmes, tout le monde.
Ben oui,
ouais, ça, ben vraiment.
Au-delà, ça, pour moi, c'est comme insensé de. Je sais pas trop que ça se verbalise mal, ce que j'essaie de dire. Ça a juste aucun sens pour moi dans ma tête, ce genre d'incident-là.
Mais des fois, on a de la misère avec la mémoire au Québec parce que certains traumatismes, on a de la misère à comprendre comment on devrait les apporter, tu sais. Puis ça me fait penser, vous connaissez Lise Payette, je sais qu'on l'avait pas comme dans le plan, mais tu sais, Lise Payette est contre féministe aussi au Québec. Il y avait eu un documentaire qui était sorti sur elle, puis il était dans une classe, puis il demandait à des étudiants, connaissez-vous Lise Payette? Puis les autres étaient comme, c'est pas l'astronaute, elle? Tu sais, pas tant.
Dans les cours d'histoire au secondaire, elle est presque pas représentée. Là. Ça a été une figure importante pour le référendum, là. Ben, les deux référendums, je pense, là, en fait. Puis une des premières femmes ministres avec des postes importants, la première ministre de la condition des femmes, là aussi.
Ouais.
Presque pas présentée, là, ce qui est dommage, là, parce qu'elle a un héritage assez faramineux et important au Québec. Là.
René Lévesque, il la voyait comme sa successeur.
Oui, exactement.
À l'époque.
Oui.
À bonne époque.
Bref, là, on pour faire suite, on pensait aussi parler d'Angela Merkel.
Ben, on peut lui faire une petite parenthèse, là, un petit shout-out. Ben, dans le fond, Angela, tout le monde la connaît. Là, c'est de 2006 à 2020, Forbes avait considéré comme la femme la plus puissante au monde. C'est grâce à elle qu'il y a eu des réformes structurelles dans la Commission européenne aujourd'hui, puis que l'Union européenne est ce qu'elle est, puis elle tenait l'Europe ensemble. T'sais. À quand elle est partie, tout le monde était comme, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être sale. Ben, la guerre a pété pas longtemps après. Là. Donc, faut se le dire, c'est...
Ah, quelle coïncidence!
Elle avait du pouvoir. De moi, d'après ce que j'ai compris, Vladimir Poutine avait un petit peu peur d'elle.
Ouais. Ben, me fait penser à Margaret Thatcher.
Oui, mais...
C'est pas dans la même politique, mais en termes de prestance. Oui,
de prestance.
Mais c'est une perception.
Ce qu'on oublie, c'est que c'est une femme de l'Allemagne de l'Est aussi, Angela Merkel. Ça vient dans ses valeurs en Allemagne de l'Est. Je sais pas si vous savez, mais les gens sont plus du sérieux. Ils ont plus...
Ils ont
beaucoup de communisme, oui. Puis elle vient de là. Puis dans le fond, sa carrière politique est vraiment genre axée sur la négociation, être venue au pouvoir à travers des coalitions, puis à travers l'Union européenne aussi, la négociation. Tu sais, c'est ce qui l'a rendu son héritage, ce qui est aujourd'hui.
Moi, quand je pense à Angela Merkel, je pense il y a un mot qui me vient en tête, c'est stabilité. C'est la stabilité. Thatcher, elle a vraiment démantelé le Royaume-Uni avant les années 80, mais Angela Merkel, elle a comme consolidé un système qui était quand même fragile, l'Union européenne. Là. Ouais. Il y a eu des crises en maudit, les crises économiques de 2008, crise des réfugiés de 2015, le COVID. Elle a passé à travers tout.
Mais l'Allemagne aussi, son dernier mandat, c'était deux partis, elle était déjà dans une coalition avec deux partis, puis après ça, elle a fait une coalition avec son parti principal pour aller contre l'extrême droite qu'il y avait en Allemagne. Donc, que des coalitions, c'est fantastique.
Est-ce qu'on serait en ouverture? Mettons, on est-tu rendu au moment de l'ouverture? Je peux me permettre? Qu'en est-il maintenant des enjeux actuels? C'est des femmes politiques, le féminisme au niveau politique.
Ben, rapidement,
je vous piche la question.
Ben oui, tu sais, rapidement, genre des petites données vraiment rapides. Il y a seulement 26,1% des femmes dans le monde qui sont dans les parlements, seulement 26,1% d'eux, ce sont des femmes dans le monde, ce qui est vraiment très peu quand on compare. Puis il y a seulement 5 pays qui ont la parité. Puis ça va peut-être vous sonner étrange, c'est qui ces pays-là? Il y a le Mexique, le Nicaragua, Cuba, le Rwanda et les Émirats arabes unis.
J'allais prendre un guess pour dire Chili, je m'excuse, mais on dirait que des démocraties récentes qui peuvent sortir un peu de...
Mais oui. Je crois que c'est des pays où les parlements ont adopté des quotas, là.
Oui.
Où ils requièrent vraiment une présence de parité hommes et femmes, là. Fait que ça l'explique.
Ça l'explique. Mais ouais. Fait que c'est pas mal ça. Ça, c'est la petite donnée présentement, les quoi. Mais pour les enjeux, tu veux y aller,
Lisa? Ben, justement, si on parle de parité dans les gouvernements, une parité qui serait... une parité imposée dans un gouvernement, vous en penserez quoi? Genre, ce serait-tu... Mettons le cabinet de Justin Trudeau qui est complètement paritaire.
On parle du cabinet ou de l'Assemblée législative?
Ça peut être les deux, vraiment.
Parfait. Je vais y aller, non? Le cabinet, 100%, 50-50, je suis prêt. Ben là, c'est l'Assemblée législative, c'est ce que j'amène contre-argument, c'est comment tu préviens ça? Avec notre système actuel majoritaire et nominal à un tour. S'il y a un changement de mode de scrutin, je vois comment on peut arriver à ça. Là, malheureusement, on est pas né avec un système un peu désuet. C'est une critique du mode de scrutin annuel, actuel, selon moi, c'est, ce qui compense, c'est des personnalités fortes ou, ça a l'avantage et ça continue à diminuer les chances des femmes d'être élues à l'heure actuelle, puis c'est ce qui est vraiment dommage.
Il y a quelque chose d'autre qui rentre vraiment en jeu aussi. Il y a une étude que Radio-Can a faite pour les élections de 2008, 2011, 2015. Puis justement, je voulais se poser la question pourquoi les femmes sont moins élues, pourquoi on en a moins. Puis ce qui a été observé, c'est que c'est dans les châteaux forts, fait que les circonscriptions qui ont déjà été remportées par le parti antérieurement.
Qui perdent jamais.
Qui perdent jamais, exactement. Ben, ils vont prendre 4 fois plus d'hommes dans ces circonscriptions-là. Fait que, par exemple,
au début, les femmes vont représenter 40 % des candidates qui se présentent, mais seulement 23 % des candidates qui vont être dans les châteaux forts. Puis les châteaux forts, c'est aussi eux autres qui vont recevoir le plus d'argent. Puis l'étude démontrait qu'une candidate va recevoir environ 35 000, tandis qu'un candidat va recevoir 40 000. Fait que déjà là, tu vois le problème, c'est oui, le mode de scrutin est problématique, n'aide pas, mais les partis en tant que tels n'aident pas leur cause. Ils vont mettre les femmes, ils vont en avoir des candidates, OK, mais ils vont les mettre dans des places où... Plus incertain.
Puis c'est pas. On sait que la politique, là, c'est un peu. Quand je dis ça. Vicieux dans le sens que t'es jamais certain d'être élu.
C'est une game. Ouais, c'est un jeu de politique, malheureusement.
Ouais. Fait que pour les femmes qui se lancent en politique, la considération de la sécurité financière pèsera en beaucoup parce que c'est quand tu te présentes, OK, combien d'argent je vais dépenser, que je vais perdre, est-ce qu'il y en a qui vont me revenir? Si ça me revient, est-ce que c'est plus que j'ai perdu ou c'est moins?
Ouais, puis t'es un mois ou deux en campagne intensive. Là. Tu peux pas travailler en même temps.
Ben, ceux qui le font, ils gagnent pas. Ouais, c'est aussi fou que ça. C'est vraiment un bon débat à avoir parce que non seulement il y a ça, cette stats-là, désolé l'anglicisme, puis je leur même par exemple j'arrive avec l'argument c'est qu'est-ce que tu fais ou est-ce que dans une situation donnée t'as une bonne personne genre masculine ou quoi que ce soit dans un comté ou est-ce que prenable est-ce puis c'est la seule candidature ou quoi que ce soit est-ce que tu la mets automatiquement de côté ou tu pousses pour quelqu'un d'autre ou tu fais les deux ou je sais pas si vous comprenez mon point
mais moi j'aurais une autre question. On en a parlé au début de l'émission aussi un peu là. On parle de la difficulté pour se faire élire mais aussi se maintenir au pouvoir, il y a des enjeux. On a vu justement Jacinda Ardern, première ministre de la Nouvelle-Zélande, Nicola Sturgeon en Écosse qui ont démissionné récemment. J'aimerais vous entendre un peu là-dessus.
Mais déjà de base la politique c'est un travail très difficile, très demandant, on le sait tous. C'est pas facile puis c'est pas fait pour tout le monde, tout le monde a la capacité. Puis c'est sûr que pour les femmes, il y a plusieurs enjeux qui pèsent là-dessus. C'est la conciliation travail-famille. Mm-hmm. C'est juste, ça a été débattu il y a pas longtemps en chambre, juste le fait, je pense que les députés, ils n'avaient pas le droit de congé.
Ils amènent leurs enfants avec eux. J'ai pas le choix, mais c'est ordinaire, là. Ouais, c'est un climat un peu particulier, un peu dommage, là.
Mais en tant que femme, dans un milieu comme ça, dans une position de leadership, là, moi, je sais pas, c'est encore plus de pression, plus de barrières. Genre, mentalement, c'est difficile. Tu sais, comme tout le temps se faire redouter qu'est-ce que tu fais, t'as l'impression que tu dois. Je sais pas.
Mais ben, surtout, c'est avec la montée de la polarisation. Là, on le vit avec toutes les menaces faites aux élus là, à la dernière élection. Là, ça fait peur. Ben honnêtement, ça fait peur. Autant un homme qu'une femme, là, se faire des menaces de mort là, dans ton lieu de travail, là, pas super.
C'est ça. Tu parlais un peu pour faire ça, de la pression. T'sais, c'est Sanna Marin, c'est ça, la première ministre de la Finlande, en fait, qui y a eu gros scandale parce qu'il y avait des vidéos, des photos d'elle qui faisaient un party, mais vraiment bien normal.
Boris Johnson faisait beaucoup de parties. Exactement. Puis on lui a pas demandé de passer un test de drogue.
Non, c'est ça.
Par contre, Victoire, il est parti là.
Il y a beaucoup de
sacré Boris.
Oui, exactement.
On le salue pas, lui.
Non.
T'as tout à fait raison. Puis je fais un parallèle avec Catherine Dorion. Une cadre.
Mais oui.
Champ gauche. Je parle, mais qui sort de vraiment différent dans le cadre actuel. On critique. Que ce soit essentiellement peut-être parce que c'est une femme, mais aussi parce que les idées qu'elle projette, c'est sûr que c'est vraiment toxique comme climat.
Ben oui.
Je ne peux même pas imaginer.
C'est pas comme si Sanna Marin ou Catherine Dorion avaient fait quelque chose d'immoral.
Ben non, exactement.
C'est ça. On les critique sur des trucs très superficiels.
C'est comme tout le monde fait, là. Tout le monde fait des soirées entre amis, que ça danse un peu. Là.
C'était même pas si pire, là, si vous regardez la vidéo. Là, c'est...
Je pense qu'elle a comme peut-être un verre de vin, là, en main. Je suis même pas certaine.
Écoute, elle a quoi, 30 ans?
C'est ça, exactement.
Voyons donc.
Non, c'est...
Il y a personne qui boit du vin à 30 ans. Ça n'existe pas.
Exactement. Ouais, moi, si en politique, je vais quand même faire des parties avec mes amis à 30 ans, je pense que je vais changer de profession. c'est là d'où vient la chose. Ça reste des humains dans une position de leadership. Juste n'importe quelle position de leadership en général, en tant que femme, je reviens là-dessus, c'est comme tu as tout le temps l'impression de te faire observer, de te faire
questionner. Mais oui, mais c'est ça dans la société.
Tu sais, comme.
Tout le temps comme ça, là. Le patriarcat.
Ah, oui,
on en parle tellement souvent, on casse les oreilles, mais c'est ça, on est dans une société que c'est comme ça, puis on peut pas comme, tu sais, oui, on entend souvent là, ben les égalités sont atteintes, vous avez le même salaire, oui, peut-être, oui, mais
j'ajouterais là-dessus que, tu sais, ça prend juste un groupe de personnes qui projettent ces idées-là, qui soient élus au pouvoir et tout bascule.
Exactement.
On l'a vu à la Cour suprême des États-Unis avec les juges conservateurs qui enlèvent le droit à l'avortement. Ça prend un groupe comme ça qui vient au pouvoir dans n'importe quel pays, puis qu'on retombe à zéro là, avec le droit pour les femmes, pour les minorités et autres.
Là. Sont importantes.
Ouais. Ben, on mentionnait souvent, c'est acquis. Jamais.
Jamais, non,
jamais acquis. Jamais. Je pensais jamais que ça allait arriver. Là. Le Roe versus Wade, c'est un acquis. Mais non, pas du tout. T'sais.
Mais à chaque fois qu'il y a un virement, peut-être que je regarde trop sur l'axe en ce moment, souvent quand il y a un virement en droite dans les gouvernements, ça va tout le temps. Il y a tout le temps les droits des femmes qui sont questionnés.
Ouais.
Souvent, très, très souvent. Puis, tu sais, on peut voir un peu ça aussi au Québec aussi, là, avec la charte, je sais pas si c'était la charte, non, c'est Pauline Marois, mais le hijab, tout le débat sur... La loi 21, oui. Tout le débat sur le hijab, sur c'est sur les signes religieux, techniquement, c'est supposé être pour...
Ça atteint beaucoup les femmes.
Ça atteint principalement les femmes musulmanes qui essaient d'avoir un emploi dans la fonction publique, là.
Je peux pas mieux dire,
je partirai pas là-dessus, moi.
Sinon, en termes de mots de la fin, peut-être.
Attends,
est-ce qu'on est capable de mettre fin, justement?
Est-ce qu'on est capable de mettre fin à cette discussion?
Non, mais est-ce qu'on est capable de mettre fin à ces enjeux-là, en fait, à ces difficultés-là d'avoir une carrière politique pour une femme, de s'exprimer comme il faut? Est-ce
mais
qu'on
ça va. Être capable?
Mais
ça
j'espère
va
long. Que oui.
Mais il faut regarder autour de nous. On a quand même fait du progrès. Là. On va juste voir à Sherbrooke.
Mais oui.
Les deux députés qu'on a, c'est des femmes. La mairesse est une femme. La dernière élection.
Dans les 10 plus grandes villes du Québec, c'est 5 mairesses.
Ouais.
Le conseil de ville, le municipal à Sherbrooke, beaucoup de femmes aussi élues. Des jeunes femmes aussi, là, c'est pour mentionner.
T'sais, on parle beaucoup du côté négatif, mais le côté positif, faut qu'on le mette de l'avant aussi. Là, que vraiment, depuis des années, les femmes là, de sa place publique, ils prennent vraiment de plus en plus de place. Ils s'assument, ils sont là, ils sont capables de faire leur travail. Puis ça, pour vrai, chapeau. Puis il faut l'admirer aussi. Là.
Ouais.
100%.
Ouais. Puis vive... nous, on est chanceux. Nous, on est en politique en ce moment. Puis on a toutes ces... On habite au Québec, puis on vit dans la ville de Sherbrooke en ce moment. Puis si on veut travailler de manière locale, on va travailler avec nos députés femmes, puis... Je sais pas moi, des fois. Pour moi, personnellement, ça peut être plus agréable, des fois.
Non, c'est sûr, ça l'aide, là. Mm. Avoir toujours une présence, pas une seule présence féministe, mais plusieurs présences féminines dans n'importe quelle sphère de la vie, là.
Ouais.
Que ce soit emploi, famille et autres. C'est toujours rassurant, ça l'aide, c'est réconfortant, là.
Ouais.
Merci infiniment, les filles. Merci, Renaud, d'être venu en studio aujourd'hui. Discussion. Fort intéressante, fort pertinente. Je vous remercie infiniment. Chers auditeurs, auditrices, c'est maintenant l'heure du générique. Merci à tous et à toutes d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Je le rappelle, on est à chaque mercredi, une discussion d'environ une heure sur un sujet plus précis. On invite plus de gens. On va plus loin. On va plus loin dans nos discussions. Merci Megan d'être là à chaque mercredi d'ailleurs depuis le début de ce format. Merci Renaud d'être là à chaque lundi, chaque mercredi. Merci encore une fois Lisanne puis Judith de votre présence ici. On est en relâche la semaine prochaine, je vous l'annonce. Ouais, je suis triste un petit peu, mais bon. Je pense qu'on mérite une pause. Si tu peux y aller, Renaud. Ouais.
Ah, bon, moi, je suis pas triste. Moi, je me plaindrai pas d'aller relaxer un peu.
Blague à part, merci infiniment d'être là semaine après semaine. Et on se revoit dans deux semaines sur les ondes de CFA 83 pour les attachés de presse. Merci beaucoup.